Accent d'Europe, Juliette Gerbrand, Anne Cantner.
Bienvenue. Suspense au Portugal. Aucun des blocs traditionnels de centre-gauche ou centre-droit ne devrait pouvoir gouverner seul à l'issue des législatives qui sont organisées dimanche. Le score de l'extrême droite sera déterminant pour la formation du prochain gouvernement. Le phénomène qu'on retrouve dans presque toute l'Europe avait jusqu'à présent épargné le pays.
Mais le parti Chega devrait arriver troisième. Il a connu en quelques années une poussée fulgurante, marquée par une forte implantation chez les plus jeunes. Des jeunes dont beaucoup quittent le pays à la recherche de meilleures opportunités.
Chega, qui signifie « assez » en portugais, séduite au sein d'une génération qui n'a connu ni la dictature, ni l'avènement de la démocratie en 1974. Notre correspondante à Lisbonne, Marilyn Darcy, est allée à la rencontre de ces jeunes.
Ricardo Reis a 24 ans. Il est membre du Chega depuis 2020. Le parti de droite radical avait alors un an. Le jeune homme qui travaille dans un cabinet de consultant présente bien, chemise blanche, raie sur le côté, loden beige sur le bras. Il est depuis devenu conseiller national du Chega et a totalement embrassé la cause du parti.
Le Chega est disruptif parce qu'il n'a pas peur de dire ouvertement les choses, ce que les gens veulent entendre sur leur quotidien. Et surtout, il n'a pas peur de mettre le doigt sur la plaie qui gangrène depuis 30 ou 40 ans la politique et qui est tabou, la corruption. Pour nous, un corrompu est un corrompu. Il doit être jugé et emprisonné.
Sympathique, posé et cordial, Ricardo Reis laisse volontiers au leader du parti, André Ventura, un langage outrancier que le jeune homme justifie par la nécessité de forcer le trait pour marquer les esprits. Ricardo Reis explique pourquoi le parti a su séduire 6000 jeunes en peu de temps.
On s'est habitué à une classe politique qui a 50 ou 60 ans et la plupart du temps, un jeune de 18 ou 19 ans n'arrive pas à s'identifier ou à adhérer aux propos d'une personne de cet âge-là. C'est une question de langage et de contenu. Nous, on a une députée de mon âge qui est confrontée au même problème et qui me représente vraiment.
Neste tempo, não vou fazer a minha interpelação
porque não admito ser... La jeune députée Rita Matias, sa nouveau candidate à la députation est proche des jeunes et des thèmes qui les préoccupent comme le logement et l'emploi. Elle joue un rôle d'influenceuse près des jeunes. Ses valeurs sont conservatrices comme celles de Ricardo Reis. Pour Ricardo Marchi, historien et spécialiste des mouvements d'extrême droite en Europe, l'ancrage dans la jeunesse du Chega s'explique par le fait que le parti a su utiliser les moyens de communication des jeunes.
Le Chega a réussi à attirer les influenceurs. Pour ces jeunes qui ont la vingtaine, les réseaux sociaux, c'est une évidence. Leurs vidéos sont virales. Certains se sont rapprochés du Chega et font passer le message du parti auprès des jeunes.
Comme TikTok, Instagram, Telegram, chaîne YouTube, discours anti-système, personnalisation du leader, le Chega a multiplié par 4 les intentions de vote en sa faveur chez les 18-34 ans, passant de 4% à 16% depuis 2022 aux législatives antérieures. La stratégie porte ses fruits pour le chercheur à l'Université de Lisbonne, Ricardo Marchi.
Il y a quelques mois, le Chega n'avait pas encore réussi à attirer l'électorat des 18-25 ans. Il était plutôt bien placé chez les 35-55 ans, mais pas chez les moins de 30 ans ou les plus de 60 ans. Ça change, mais il faut voir si ça se concrétise dans les urnes.
Les 18-34 ans sont ceux qui votent le moins, fait toutefois remarquer Ricardo Marchi. Une chose est sûre, le discours anti-système plaît aux jeunes. La journaliste Daniela Sampaio, qui a écrit « Une tempête parfaite », comment l'extrême droite est revenue dans la péninsule.
Ce que les jeunes voient actuellement, c'est un pays à l'arrêt, sans futur, à tous les niveaux, éducation, santé, logement. On parle d'ailleurs beaucoup de l'émigration. Nous, les Portugais, on a toujours émigré. Certains jeunes émigrent par choix, mais beaucoup d'autres parce qu'ils sont obligés. Et c'est pas normal, ils sont face à des partis centristes vieillissants, sans proposition, même quand leurs leaders sont plutôt jeunes, dans la quarantaine, ce qui est curieux.
Ces jeunes rencontrés à la faculté des sciences humaines de l'Université de Lisbonne vont voter. Ils jugent trop radical la droite populiste du Chega. Thomas, 19 ans.
C'est un parti extrémiste et la droite classique aura des problèmes si le Tchéga gagne du terrain. Ça peut créer une situation instable pour notre pays.
Martha rejette les accents xénophobes et le recul des avancées sociétales sur l'avortement et l'égalité des genres, par exemple.
Je crois que la droite va gagner, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment un risque avec le Tchéga, malgré leur extrémisme. Parce qu'on ne va pas revenir en arrière. On est une démocratie et les autres partis vont résister. Je ne suis pas inquiète.
À deux jours du scrutin, le centre droit et le centre gauche sont toujours au coude à coude et aucune majorité claire ne se dessine. La droite centriste, en cas de victoire, devra sans doute compter sur le Tchéga et les ultralibéraux. Elle refuse toujours de dévoiler sa stratégie.
Un reportage de Marilyn Darcy. Le parti Tchéga sera-t-il faiseur de roi dimanche soir? Peut-il faire partie d'un futur gouvernement? On a posé la question au spécialiste du Portugal, Yves Léonard.
Toutes les possibilités sont ouvertes, effectivement. Et de toutes les façons, le Tchéga, avec plus de 15% d'un système à la représentation proportionnelle, comptera certainement plus de 30 députés, peut-être plus de 40 députés sur 230, et donc va peser, et ce n'est pas neutre, à quelques semaines aussi de la commémoration du 50e anniversaire de la Révolution des œillets, dont Tchéga n'a jamais fait mystère depuis sa création, que n'est pas un admirateur du 25 avril et de la Constitution qui en est née, la base de la démocratie portugaise, la Constitution de 1976.
Le Portugal est un des pays les plus accueillants en matière d'immigration, et malgré cette forte poussée de l'extrême droite, ça n'est pas un thème qui mobilise. L'immigration n'est citée qu'en 7e position des préoccupations de Tchéga. Comment ça s'explique ?
Ça s'explique par l'histoire même du pays, son évolution. C'est un pays où les phénomènes migratoires ont toujours été importants et qui a plutôt effectivement une tolérance grande à ces phénomènes migratoires. Reste que Tchéga est le représentant aussi d'un courant aujourd'hui assez structuré au niveau européen qui fait de l'immigration l'un de ses chevaux de bataille. C'est vrai que ça fonctionne moins au Portugal, mais dès que l'occasion se présente, problèmes de sécurité, différentes questions sociétales, Tchéga met en avant ce qu'il appelle les Portugais de bien pour mieux stigmatiser tous ceux qui ne rangent pas dans cette catégorie, c'est-à-dire tous les ressortissants des anciennes colonies d'Afrique qui ont quelquefois souvent la nationalité portugaise mais qui à ses yeux ne sont pas portugais, et puis les personnes venues d'Europe centrale et orientale, bref, à chaque fois les Roms, les Tziganes, etc. Il a toujours l'automatisme en quelque sorte de mettre l'accent sur ce point. Mais c'est vrai que le principal carburant de Tchéga, c'est la question anti-système autour de la corruption supposée des élites et donc pour mieux se poser en chevalier blanc de la démocratie en quelque sorte.
Quelles sont les autres grandes préoccupations des électeurs ?
Elles sont nombreuses. C'est les questions relatives au pouvoir d'achat, les questions relatives au logement, les questions relatives à l'avenir du système national de santé. Bref, toutes ces questions qui concernent la vie quotidienne des gens, le pouvoir d'achat, une forme de qualité de vie, sont révélateurs à la fois d'un bilan, somme toute, positif de l'équipe sortante et d'Antonio Costa en particulier, mais aussi d'un certain nombre de problèmes persistants, ceux que je viens de citer, et la crise notamment du logement dans les deux principales villes portugaises, Lisbonne et Porto, est tout à fait un sujet très important, qui cristallise beaucoup de mécontentement.
On est à quelques mois des européennes. Quel impact peut avoir le scrutin législatif sur l'élection des députés européens ?
Le résultat même du 10 mars conditionnera très fortement le résultat des européennes du mois de juin. Et notamment sur la question de Tchéga, si Tchéga doit faire un score important, il y a fort à parier que sur l'élection européenne à venir, il en ira de même.
L'historien Yves Léonard, enseignant à Sciences Po et spécialiste de l'histoire contemporaine du Portugal.
Alors que la France grave le droit à l'IVG dans la Constitution aujourd'hui, la route est encore longue pour le respect des droits des femmes sur le continent. Dans certains pays même, ces droits régressent, Juliette.
Et dans d'autres, Anne, des dispositions surprenantes subsistent. C'est le cas en Irlande, où un double référendum est organisé en cette journée des droits des femmes pour modifier des articles de la Constitution. Des articles adoptés en 1937 qui définissent le rôle de la femme, mais aussi ce que doit être une famille. Le Premier ministre Leo Varadkar a estimé que le temps était venu d'en finir avec un langage, je cite, « très daté, très sexiste ». Les associations demandaient depuis longtemps cette évolution des textes et la reconnaissance de la liberté des femmes à choisir leur place dans la société. À Dublin, le reportage de notre correspondante Clémence Pénard.
Jack ne parle pas, il est nourri par sonde, incontinent, il souffre d'épilepsie et il a des troubles d'apprentissage.
Lindsay O'Donovan, maman d'un jeune homme de 20 ans quadriplégique.
Je m'occupe de tous les soins personnels de Jack, je le change, je le lave, je lui donne ses médicaments. La nuit, il ne peut pas se retourner, donc je dois moi-même le bouger une dizaine de fois pour qu'il ne souffre pas d'escarres et qu'il soit bien. C'est parfois épuisant, c'est un job 24 heures sur 24, mais cela n'enlève rien au fait que j'aime profondément mon fils Jack et que c'est un privilège de m'occuper de lui. Mais j'estime que ça devrait être valorisé et pris en compte. C'est un droit fondamental pour tout citoyen irlandais.
Le souhait de Lindsay est simple. Elle voudrait que son rôle d'aidante soit enfin reconnu par l'État, qu'on mette en lumière le travail de celles qui s'occupent des enfants handicapés, des parents âgés et ou souffrants. Des femmes, la plupart du temps, il faut bien l'avouer, et c'est pour ça qu'elle votera oui au référendum d'aujourd'hui. L'idée est de reformuler l'article 41.2 de la Constitution qui fait référence au devoir des femmes à la maison, un texte des années 30 qui reflète la forte influence de l'Église catholique dans le pays. Il stipule que l'État doit veiller à ce que les mères de famille ne soient pas obligées de travailler pour des raisons économiques au détriment de leurs devoirs domestiques. Si le oui l'emporte, le référendum permettra d'affirmer que la place d'une femme est là où elle le souhaite et de remplacer ce langage archaïque par une reconnaissance de l'immense contribution des soins familiaux à la société, qu'ils soient d'ailleurs prodigués par une femme ou un homme. Rachel Coyle est la directrice de campagne du Conseil national des femmes en Irlande.
Les Irlandaises ont protesté contre cet article dès qu'il a été inséré dans la Constitution et nous n'avons jamais cessé de nous y opposer. Oui, nous voulons enfin changer sa vision restreinte et dépassée du rôle des femmes, car depuis ce texte, l'Irlande s'est considérablement transformée.
Plus de 90 ans de lutte contre une disposition déjà considérée comme rétrograde en 1937, comme l'explique Lindsay Erna Byrne, professeure d'histoire irlandaise contemporaine à l'université Trinity.
Beaucoup de féministes observaient alors la montée du fascisme en Europe et s'inquiétaient de la manière dont l'État utilisait la famille pour renforcer son contrôle. Elles ont donc tout de suite présenté des arguments très précis pour que l'article soit retiré de la Constitution. Elles redoutaient son impact sur les femmes en tant que travailleuses, mais aussi sur celles nombreuses qui n'étaient pas mariées ou ne vivaient pas dans ce qui était considéré comme une famille normale.
C'est d'ailleurs aussi la définition de la famille qui est en jeu avec le référendum d'aujourd'hui. Il pourrait permettre de l'élargir au-delà du mariage et de reconnaître les familles monoparentales ou celles de couples non mariés. Claire O'Connell, membre de l'Alliance des parents LGBT+.
Actuellement, la Constitution ne reconnaît qu'un seul modèle de famille, celle du couple marié. Si vous n'êtes pas marié, vous avez malheureusement moins de droits. Donc voter oui permettra d'avoir une définition plus inclusive. Elle reste à définir, mais on pourrait parler de relations durables plutôt que de couple marié. En fait, il s'agit surtout de faire évoluer un concept juridique pour le mettre plus en phase avec la société dans laquelle on vit.
C'est trop peu, selon certains qui critiquent des formulations choisies trop hâtivement et des dispositions pas assez contraignantes pour l'État. Mais cela reste une première étape dans un pays à forte tradition catholique. Les Irlandais ont déjà largement voté ces dernières années pour assouplir la législation sur l'avortement et autoriser le mariage gay. Un double oui au référendum irait donc dans le sens de cette libéralisation de la société.
La nouvelle n'a pas fait beaucoup de bruit, Juliette, mais depuis la mi-janvier, la Croatie est devenue le troisième membre de l'Union européenne à reconnaître le féminicide comme un crime, après Malte et Chypre.
Oui, et l'an dernier, 2300 femmes ont été tuées dans l'Union européenne par leurs conjoints ou des membres de leur famille, selon les données de la Commission. La question de savoir si le meurtre d'une femme, parce qu'elle est une femme, doit être inscrit dans le code pénal, fait débat dans de nombreux pays, dont la France. En Croatie, c'est donc chose faite et c'est une décision surprenante, nous explique Simon Rico, car la majorité conservatrice au pouvoir était jusque-là plutôt connue pour ses attaques contre les droits des femmes. Écoutez.
Le meurtre aggravé d'une femme, le féminicide, est une nouvelle infraction pénale passible d'au moins 10 ans de prison, s'est félicité le ministre de la Justice à l'issue du vote des députés croates le 11 janvier dernier. C'est un message clair envoyé à la société: tuer des femmes et exercer des violences contre les femmes simplement parce qu'elles sont des femmes est inacceptable, leur avait dit juste avant Andrei Plenković, le chef du gouvernement. Cette nouvelle loi entend mieux punir toutes les violences sexistes et sexuelles. Conformément à la Convention d'Istanbul, la notion de violence à l'égard des femmes est ainsi introduite, désormais considérée comme une circonstance aggravante. Des dispositions sont aussi prévues pour renforcer les peines contre la pédocriminalité, avec notamment la suppression du délai de prescription pour les crimes sexuels concernant les mineurs de moins de 15 ans. Voilà qui a de quoi surprendre. Les conservateurs croates avaient jusqu'à présent surtout soutenu des initiatives patriarcales allant contre les droits des femmes. Au printemps 2018, plusieurs élus du parti au pouvoir avaient ainsi participé aux grandes manifestations contre la ratification de la Convention d'Istanbul. Quant au droit à l'avortement, il est de plus en plus menacé et de nombreuses femmes croates doivent partir à l'étranger pour obtenir une IVG. Dans une société où l'Église catholique est aussi puissante que réactionnaire, beaucoup remarquent que ce sont surtout les mentalités qu'il faut faire évoluer. En effet, comme le résume l'auteur de Polar, Jurica Pavicic, dans l'une de ses nouvelles, chez nous, les gens sont comme ils sont, ils aiment se mêler des affaires des autres. Mais il y a une chose dont ils ne se mêlent pas, c'est si tu cognes ta femme. Avec cette nouvelle loi, les lignes commencent enfin à bouger, mais la prévention doit désormais être la priorité, préviennent les associations féministes.
You should listen to the following music in such a way you lose yourself and become the music.
On retrouve le choix musical de Vincent Théval comme tous les vendredis. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec aujourd'hui, 8 mars oblige, une chanteuse.
C'est via l'Angleterre et le label One Little Independent que nous parvient le troisième album de la musicienne française Sarah Sarah, 8 ans après un premier essai qui avait séduit par son originalité et sa radicalité. Nourrie aux musiques électroniques les plus pointues, Sarah Fieur, de son vrai nom, y déployait un art du design sonore impressionnant sur Elixir qui vient de paraître. Ce sens de la mise en son ne s'est pas émoussé, mais il est aujourd'hui associé à une écriture plus accessible et une instrumentation étoffée. Un disque plus pop, en somme, mais aussi plus engagé, puisque Sarah Sarah l'a pensé comme un manifeste musical destiné aux personnes en colère et privées de leurs droits.
Warrior, un titre de la chanteuse française Sarah Sarah. À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Retrouvez l'émission et toute l'actu européenne sur l'appli Pure Radio. À bientôt.